Qu'est-ce que le maniérisme? Certains diront, et ils auront raison, que le maniérisme désigne ce qui est maniéré. C'est vrai, mais le sens de ce mot, notamment dans son origine, est beaucoup plus large. Au cours du XVIe siècle, les fouilles archéologiques sont devenues à la mode. Il se trouve qu'en Italie, on pense à Rome, on pense à Pompéi ou à Herculanum, on a mis à jour de superbes ruines antiques. Et très rapidement, les artistes ont eu envie de s'en inspirer en recréant un style, je le dis à l'italienne, à la maniera, c'est-à-dire à la manière de l'antique. On fait ressurgir, on fait renaître les modes du passé, c'est pourquoi on parle de la période de la Renaissance. On bâtit, on sculpte, on construit à la maniera de l'antique et cela donne le maniérisme puis le style maniériste. Un style, c'est l'expression d'une tendance ou d'une époque. Et il se manifeste par toute une série de caractéristiques. Tout cela est dit pour en arriver à la question surprenante qui suit. Existerait-il une maniera, une façon de procéder qui définirait un hypothétique style de Dieu? Cela peut paraître farfelu, mais si l'on peut parler d'un style de Dieu, quelles en seraient les principales caractéristiques? Grand A, petit 1, considérons le style de Dieu au sens propre dans le cadre de l'Ancien Testament. Dans le livre de l'Exode, à partir du chapitre 25 et pendant 6 ou 7 chapitres, le Seigneur donne des instructions extrêmement précises à propos de l'élaboration de la tente de la rencontre et de l'ensemble de tous les éléments qui s'y rapportent. Et à partir du chapitre 28, nous voyons que l'Éternel procède comme le ferait un grand couturier. À propos des vêtements des prêtres, il demande que soit créé un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, un turban et une écharpe. Et chacun de ces éléments est considéré individuellement. À propos du pectoral, nous lisons donc dans ce chapitre 28 du livre de l'Exode, à partir du verset 15, quelques versets. Chapitre 28 de l'Exode, verset 15. Tu feras le pectoral du jugement, ce sera un ouvrage d'artisan. Tu le feras de la même façon que l'éphod, d'or, de pourpre violette et rouge, d'écarlate et de fin lin retors. Souvenez-vous de cette expression, fin lin. C'est un tissu de qualité, ce n'est pas du lin ordinaire, de fin lin retors. Il sera carré et double, sa longueur sera d'un empan et sa largeur d'un empan. Tu y sertiras une garniture de pierres, 4 rangées de pierres. Première rangée, 2 points. Une sardoine, une topaze, une émeraude. Deuxième rangée, une escarboucle, un lapis lazuli, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or et les pierres seront au nom des fils d'Israël. À propos de la robe de l'éphod, toujours dans ce même chapitre, nous lisons au verset 31. Et là, vous allez bien voir qu'on est dans la haute couture. Tu feras la robe de l'éphod tout entière de pourpre violette. Il y aura au milieu une ouverture pour la tête, et tout autour de cette ouverture, il y aura un ourlet. un ouvrage de tisserand comme l'ouverture d'un vêtement de cuir tressé, afin que la robe ne se déchire pas. Tu feras tout autour, au bas de la robe, des grenades de pourpre, violette et rouge et d'écarlate, et il y aura entre des clochettes d'or. Sur tout le tour, une clochette d'or et une grenade, une clochette d'or et une grenade, et sur tout le tour, au bas de la robe. Et enfin, on laisse rien au hasard, au verset 42 de ce chapitre 28, nous lisons « Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité, ceux-ci iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. » Là, on parle des vêtements, mais si on voulait parler, par exemple, puisqu'on parle de style, d'éléments architecturaux, il suffirait de se plonger dans la construction du temple de Salomon. Ça, c'était un peu pour le style au sens propre dans le cadre de l'Ancien Testament. Toujours dans le même cadre, mais cette fois-ci, en l'abordant d'un point de vue un peu plus symbolique, au sens un peu plus... symbolique. Si nous étudions la maniera des exigences de Dieu, nous voyons cela se pose, se base sur le principe d'un rythme lent. C'est un pas à pas. On pense notamment à la traversée du désert. Autre socle dans le style vétérotestamentaire de Dieu, c'est la sacralisation de l'écrit. La quintessence du style de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est la loi. La loi et tout ce qu'elle sous-entend, eh bien, de contraintes, d'obéissance, de soumission. Alors d'aucuns diront, ben écoutez, jusque-là, il n'y a rien de très folichon. Hein. Ça n'est pas faux, mais nous ne parlons là que d'un échantillonnage. Et cet échantillonnage ne résume pas à lui seul tout le style de Dieu de l'Ancien Testament. Il est évidemment impossible de tout dire. Mais s'il ne fallait citer que deux vertus du style de Dieu dans l'Ancien Testament, nous pourrions parler de la fidélité et de l'amour de l'Éternel. Amour pour son peuple lorsqu'il le libère de l'esclavage d'Égypte. Fidèle protection lors de la traversée à sec de la mer Rouge. Bienveillance avec la colonne de feu qui donne le sens de la marche le jour et qui veille sur les nuits. Amour, fidélité et patience lors des victoires sur l'ennemi, lors d'une série incroyable de miracles. On pense à l'eau du rocher d'Horeb, à la manne, aux cailles. Et puis, amour dans la promesse de la terre promise. Et de cette foisonnante liste dont on ne peut pas tout dire, je vais n'extraire qu'un tout petit dernier élément qui ne figure peut-être pas en tête, mais qui est bien dans la liste des caractéristiques. C'est le principe du choix. Le choix. Il y est tellement que le Deutéronome lui consacre ce texte bien connu, chapitre 30. « J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. » afin que tu vives. » Ça, c'était notre grand A. Venons-en au grand B, notre deuxième chapitre, pour savoir ce que devient ce style de Dieu dans le cadre non plus de l'ancienne, mais de la nouvelle alliance. Nous ne trouvons pas dans le Nouveau Testament d'indication stylistique à proprement parler. Une mention est faite de la part de l'apôtre Jean concernant la tunique de Jésus lorsqu'il nous dit qu'elle était sans couture. Mais rien de particulier sur le style architectural, il y a là comme une espèce de mise entre parenthèses, jusqu'à ce qu'arrive l'époustouflante, la sidérante série de descriptions de l'Apocalypse. Mais ça, on va le garder pour tout à l'heure. Cependant, si nous mettons en confrontation ce style est dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, nous voyons qu'il y a une série incroyable de constantes. Et parmi ces constantes, il en est une qui n'est pas ordinaire. C'est que dans ces deux parties de la Bible, il n'y a aucune place, aucune, pour le culte de l'image. Pour le culte de l'image. Que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Les images, les icônes, sont bannies, exclues, proscrites. En revanche, et on peut s'en étonner, ce qui est interdit aux yeux avec l'image est permis aux oreilles avec l'expression musicale. Non pas pour adorer la musique ou le chant, mais pour le considérer comme un moyen d'adorer et de louer le Seigneur. Autre constante, c'est l'idée du temps lent. Le Nouveau Testament nous parle d'une ascension difficile sur un chemin étroit et rocailleux. Il s'agit là d'un pas à pas qui correspond au temps nécessaire à l'assimilation et à la mise en pratique des commandements que nous a laissés le Seigneur Jésus. Point de vitesse dans le style de Dieu, et surtout pas celle étourdissante de la succession des images. Ce cheminement lent et difficile induit parfois des combats et des épreuves. Et tout à l'heure, Benjamin a lu ce texte qui nous dit que ces épreuves sont comme autant de creusets qui épurent notre foi et la rendent plus forte et plus endurante. Bref, dans notre aujourd'hui comme dans l'autre foi des Hébreux, la manière de Dieu peut paraître ardue et exigeante. Alors on peut se poser cette question. Ce style-là dont nous parlons, serait-il triste? Serait-il rébarbatif? Et au fond, le vecteur d'une sorte de décrépitude. Les réponses qu'offre l'apôtre Paul à ce type de questions sont sans ambiguïté. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 7 et au verset 10, il dit « La tristesse, selon Dieu, produit un changement radical qui conduit au salut. » Chapitre 4 « Même si l'homme extérieur dépérit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car un moment de détresse produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Et le livre des actes d'ajouter, il faut passer par beaucoup de détresse pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais comme tout à l'heure, pour l'Ancien Testament, si tout ce que nous venons de dire est vrai, ça ne concerne qu'un petit échantillonnage, qu'une partie des caractéristiques du style de Dieu. En effet, et vous le savez tous, le socle, le fondement, l'essentiel même de ce style aujourd'hui, c'est l'offre du salut en Jésus-Christ pour quiconque croit. La plénitude du style de Dieu dans notre temps terrestre se cristallise dans cette proposition qui nous libère du péché. C'est par Christ, c'est de Christ seul que vient le salut. Il est la seule vérité, il est le seul chemin qui permet l'accès à la vie éternelle en présence du Père céleste. C'est pourquoi nous pouvons dire qu'une des constantes commune à l'Ancien comme au Nouveau Testament, est l'idée de choix. Aujourd'hui, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Alors, peut-être depuis le début, avez-vous trouvé fantasque que soit posée cette question du style de Dieu? Si tel est le cas, il est fort à craindre, et bien que la question suivante ne reçoive pas non plus vos faveurs.
Allez, j'ose. En opposition au style de Dieu, se pourrait-il qu'il existât un style du diable. Ne riez pas. Contrairement au style divin, celui du diable se décline dans l'immédiateté. Son rythme, loin d'être dans la lenteur d'un pas à pas, est dans la fulgurance de la consommation et de la succession d'images. Nous sommes ici à l'inverse de la méthode précédente. Les images et la consommation sont le miel du diable. On dit des grands couturiers, des stylistes que sont les maîtres de la mode, qu'ils ont tous une ou des muses. Vous savez, ces élégantes, ces mannequins sont appelés des icônes de la mode. On parle d'icônes de la mode. Elles sont la représentation du créateur dont elles dépendent. Elles en incarnent le style. Parmi les muses dont il dispose, il est une icône à laquelle le diable tient beaucoup. C'est la séduction. La séduction cristallise à ce point son style que lui-même est appelé le séducteur. Alors dans ce cadre, que devient notre libre arbitre ? Quid de l'idée du choix ? Dans le style du diable, le choix n'est devenu qu'un leurre. Pourquoi ? Parce qu'il s'opère sous l'effet anesthésiant de la séduction. Lorsqu'on est séduit, on perd son libre arbitre. Non seulement nos choix deviennent orientés, mais ils peuvent l'être jusqu'à la déraison. Inoculés, injectés à dose massive, la séduction peut entraîner des addictions, des trahisons, toutes sortes de folies et même conduire au meurtre. La séduction est l'identifiant manifeste du diable. À l'extrême opposé, à l'extrême inverse, Dieu, lui, ne triche pas. Jamais. Il respecte notre liberté et c'est en toute transparence qu'il se contente de mettre devant nous. J'ai mis devant toi. Et tout cela, ici, repose sur le magnifique principe de l'amour. Nous avons dit, la séduction est l'identifiant manifeste du diable, et nous disons, l'amour est le manifeste et l'identifiant manifeste de Dieu. Quand on choisit la maniera du diable, les plaisirs et la consommation sont la réponse immédiate au désir. Quand on choisit la maniera de Dieu, la lenteur peut sembler laborieuse, mais elle construit. Et, tiens, c'est l'heure de la récré. Bon, ben on se prend 2 minutes de récré et on va, par exemple, on va assister à un défilé, tiens. Alors, quelles sont les propositions vestimentaires que nous font
les deux styles considérés. Petit 1, le style vestimentaire du diable. Il est furieusement contemporain, furieusement tendance. On peut imaginer un truc du style Si Saxenson. Allez, genre des tongs, parés haut, cachant très mal ou à peine la nudité des corps, le tout dans une ambiance perpétuellement jeune et festive. Bref, tout se passe dans une vie idyllique et dans un été sans fin. Et face à ça, que nous propose le style vestimentaire de Dieu? Oh, mes amis, un look, mais un look, je vous dis pas. Autre que les chaussures improbables, une panoplie, bon, une ceinture au rein, allez, passe. Mais après, une cuirasse, un bouclier, un casque vissé sur le crâne et une épée à la main. Bref, pour plus de détails, relisez Éphésiens 6. Fin de la récré. Et si on redevenait un peu sérieux? La Bible parle du diable comme étant un ange de lumière. À l'intérieur même de la séduction, son atout maître, c'est l'apparence et la beauté. Gare à la beauté, il n'est jamais très loin d'elle. Écoutez, divin, où est l'atout maître ? Eh bien, vous le savez, il est dans la grâce manifestée dans le Christ incarné. Et comment ici ne pas redire quelques extraits du texte que Pierre nous a lu la semaine dernière depuis Ésaïe 53 ? Il n'avait ni éclat ni beauté pour que nous le regardions. Son aspect n'avait rien pour nous attirer. Il a été semblable à celui dont on détourne le visage. La vérité, chers amis, c'est que la folie du style du diable ne laisse derrière elle que ruine et dévastation. La formule de la Bible qui nous le dit est radicale. Le salaire du péché. Eh bien, devant cette mort incontournable, Dieu, avec tout son amour, vient nous proposer l'autre choix en la personne de son Fils mort et ressuscité. J'ai mis devant toi aujourd'hui la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Avant d'en arriver à la conclusion, nous allons nous poser une petite série de questions, ce seront les dernières, et ce sera notre grand C. Ce qui adviendra fait froid dans le dos. On va être très bref parce que finalement, ça ne nous concerne pas. Mais enfin, la Bible nous dit qu'il y aura des ténèbres, des grincements de dents, un étang de feu et de soufre, ainsi que des tourments éternels. Prenons davantage de temps pour évoquer ce qui attend celles et ceux qui ont fait le choix de la vie éternelle en Christ. Lorsque j'étais enfant, ma mère était toujours super contente quand elle recevait ses catalogues. Les anciens parmi vous se souviennent bien, hein, les catalogues de la Redoute et des Trois Suisses. Oh là là, quelle affaire! Ils représentaient pour ma mère des machines à rêver. Hein. Par ces catalogues, eh bien, s'ouvrait le choix de tous les possibles. Eh bien, un peu de la même façon, il ne pouvait y avoir pour nous de style à venir de Dieu qu'à travers les révélations d'un catalogue. Si le livre de l'Apocalypse ne se résume pas à cette comparaison simpliste, il nous laisse cependant entrevoir quelques éléments de ce que sera l'après en présence de la gloire éternelle de Dieu. Quelle sera dans cette autre dimension le style à considérer? Eh bien, nous allons commencer par poser le cadre en lisant les deux premiers versets dans l'Apocalypse du chapitre 21, juste les deux premiers versets. « Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Jérusalem céleste. » Voilà pour le cadre. Cette Jérusalem céleste aurait-elle un style architectural particulier? Toujours au chapitre 21, nous lisons les versets 18 à 21. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondations de la muraille de la ville étaient ornées de toutes sortes de pierres précieuses. La première fondation était de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de chalcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardonyx, la sixième de sardoine, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la dixième de chrysoprase, la onzième d'hyacinthe, la douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles, chacune des portes était d'une seule perle, la grande rue de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Waouh ! Quel style, mes amis ! Nous remarquons que les couleurs seront présentes. Là-haut, il n'y aura rien de monochrome, mais au contraire, tout sera d'un indicible chatoiement irisé, comme semblait l'annoncer l'éclat du pectoral qu'opportaient les prêtres de l'Exode. Alors ça, c'est pour l'architecture. Et pour les vêtements, qu'en sera-t-il? Le chapitre 3 au verset 5 dit, ça ne peut pas être plus clair, le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Et plus loin, on nous parle d'une robe de fin lin, vous savez qu'on a parlé du fin lin tout à l'heure, hein, d'une robe de fin lin resplendissant. On retrouve ici aussi un parallèle avec le fin lin mentionné dans le livre de l'Exode, mais attention, cette fois-ci, il s'agit d'un texte crypté, et c'est le chapitre 9 au verset 8 qui nous permet de décoder ce fin lin. Chapitre 9, verset 8, le fin lin, c'est la justice des saints. La justice des saints. Ainsi, le style céleste ne sera pas une histoire de tissu ou de fringues, mais comme c'était le cas prophétique de l'Exode, mais il consistera en un revêtement, en un habillement de justice. Enfin, et juste avant de conclure, nous ne pouvions pas faire l'économie d'une toute dernière observation. Nous venons d'évoquer les couleurs irréelles des pierres précieuses et le revêtement resplendissant de justice. Or, en poursuivant la lecture, nous voyons que dans le style céleste, la louange occupera une place prépondérante. Voici donc notre toute dernière question. Existera-t-il un style musical? La réponse est oui. Mais comme précédemment,
Il ne nous est pas actuellement possible de mettre cela en mots. Tout ce que nous pouvons en dire, c'est qu'au même titre que les couleurs et la lumière, les sons, le chant et la voix en particulier seront bien là. Chapitre 5, verset 10, « J'entendis la voix de beaucoup d'anges. » Verset 19, « Ils chantent un chant nouveau. » Chapitre 14, « J'entendis du ciel une voix comme le bruit d'un fort tonnerre, et le son que j'entendis était comme, voyez, on ne peut pas être dans la définition, était comme celui de joueurs de lyre jouant de leurs instruments. Ils chantent comme un chant nouveau devant le trône. » Oh, quel catalogue! Que dire en conclusion? Le mot maniérisme est emprunté au vocabulaire de l'histoire de l'art. C'est un mode de faire qui s'inspire d'un style. Il vise à faire sienne une manière, à s'en revêtir. En fait, et sans jamais que ce soit dit, le style maniérisme repose sur l'idée fondamentale du choix, car il choisit de copier certains éléments, il fait le choix d'imiter, il fait le choix de s'approprier. Interrogeons-nous ce matin sur nos choix. Sur notre choix. Reste-t-il entièrement à faire, à considérer? Le texte du Deutéronome dit aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ce choix a-t-il été fait depuis un certain temps? Si oui, n'a-t-il jamais dévié? Ne s'est-il jamais attiédi? Ne s'est-il jamais assoupi? Plaçons-nous en toute sincérité devant notre Seigneur et Maître pour nous examiner ou nous ré-examiner et laissons une dernière fois encore résonner ce texte du Deutéronome. Soyez forts et courageux. N'ayez pas peur. Ne vous laissez pas effrayer. Le Seigneur ton Dieu marche lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur. Ne sois pas terrifié. Sois fort et courageux. Regarde. J'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et la bénédiction, la mort et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Amen. Je vous invite à quelques instants de réflexion silencieuse.